Alors, je voudrais vous poser une question ce soir. Quelles sont les personnes auxquelles vous tenez le plus dans la vie? Quelles sont les personnes auxquelles vous tenez le plus dans la vie? Vos parents peut-être? Vos frères et sœurs? Votre conjoint? Votre fiancé? Vos enfants? Ou peut-être votre meilleur ami? Pensez à ces personnes et réfléchissez à ce que vous seriez prêt à faire pour elles. Pensez à ce que vous seriez prêt à donner pour leur venir en aide au cas où ces personnes seraient en difficulté. D'accord? Pensez à l'effet que ça vous ferait si ces personnes-là, un jour, ne voulaient plus vous voir ou vous connaître. Qu'est-ce que ça vous ferait? Est-ce qu'il y a des gens dans votre vie auxquels vous tenez particulièrement? Sans doute. Si c'est le cas, alors vous allez plus facilement comprendre ce soir ce que Dieu veut nous montrer dans le passage que nous sommes sur le point de lire. Et ce qu'il veut nous montrer ce soir, c'est que lui-même, en tant que Dieu, est fortement attaché à certaines personnes, à savoir son peuple. Dieu tient à son peuple. Il tient fortement à son peuple. Et ce texte va nous faire comprendre cela, cette idée, à travers un épisode très étrange, très étonnant et même un peu choquant. Alors, on est au milieu du chapitre 4 ce livre de l'Exode, et à la fin du chapitre 4, comme on va le voir au moment de la lecture, et ben on assiste au dénouement de la première grande partie de cette histoire. Les chapitres 1 à 4 couvrent en gros une grande partie, un gros épisode qui trouve son dénouement à la fin du chapitre 4, avant de passer à autre chose, avant de passer à la suite de l'histoire. Alors pour résumer brièvement, on a vu jusqu'ici que le peuple d'Israël s'était multiplié en Égypte, ce n'est pas leur pays, mais ils se sont multipliés là-bas en Égypte, et face à cette croissance effrénée, les autorités ont accablé les Israélites de travaux pénibles, une main-d'œuvre à disposition dont ils ont profité, qu'ils ont exploité. Alors on a vu ensuite, ça c'est chapitre 1, chapitre 2, on a vu ensuite qu'un libérateur était né dans des circonstances assez incroyables, à savoir Moïse, mais qu'une fois adulte, ce libérateur avait été rejeté par le peuple lui-même en raison de l'incrédulité du peuple. Il a été rejeté et il a dû s'exiler dans un autre pays que celui de l'Égypte. On a vu aussi, ça c'est le chapitre 2, on a vu avec la fin du chapitre 2 et le début du chapitre 3, que Dieu n'avait pas pour autant abandonné son peuple, mais qu'il s'était fait connaître à Moïse. Et pourquoi? Eh bien, afin de l'utiliser, ce Moïse, comme médiateur pour délivrer son peuple de l'esclavage d'Égypte. D'accord? Et enfin, on a vu ça surtout la dernière fois, on a vu que Moïse ne voulait pas, dans un premier temps, assumer cette responsabilité à laquelle Dieu l'appelait. Il ne voulait pas, tout simplement, il a opposé des objections à Dieu. Il a dit non, je veux pas. Il a présenté des excuses à Dieu en disant, ce serait bien que tu trouves quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce qu'on a vu aussi? C'est que Dieu a compensé sa faiblesse et que Dieu lui avait montré, ainsi qu'au peuple, à travers Moïse, et ainsi qu'à nous-mêmes, à travers cette histoire, qu'on pouvait en réalité se fier entièrement, totalement à lui, à Dieu. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant? Après avoir longuement parlé avec Dieu près du buisson ardent, Moïse finalement n'a pas le choix que d'accepter le mandat, la mission que Dieu lui confie. Et il va donc partir avec sa famille et retourner en Égypte pour la première fois depuis 40 ans. Moïse va retourner en Égypte pour la première fois depuis 40 ans. Moïse obéit donc à la mission que Dieu lui a confiée, mais qu'est-ce qu'il va trouver en Égypte? Telle est la question. Qu'est-ce qu'il va trouver en Égypte? Le peuple d'Israël est-il encore là? A-t-il survécu à cette terrible servitude? Moïse est-il encore recherché à cause de l'Égyptien qu'il avait tué parce qu'il avait pris la défense d'un esclave hébreu? Est-ce qu'il est encore recherché pour cela? Les Israélites, s'ils sont encore là, est-ce qu'ils vont recevoir Moïse favorablement cette fois, contrairement à la première fois? Est-ce que le frère de Moïse, Aaron, donc, est-ce qu'il va vraiment se joindre à Moïse pour l'aider dans sa mission comme Dieu l'a suggéré? Est-ce que ça va vraiment se passer? Et alors vous voyez qu'il faut que toutes ces questions-là trouvent une réponse avant qu'on passe à la suite de l'histoire. à savoir à la confrontation proprement dite entre Moïse et les autorités égyptiennes représentées par le pharaon. La tension, donc, dans le récit de ce livre de l'Exode est sur le point de monter d'un cran. Mais avant cela, avec donc la fin de cette première grande partie, chapitre 1 à 4, Dieu veut asseoir une idée très importante, c'est celle que j'ai mentionnée tout à l'heure. Et c'est une idée qu'on va retrouver d'ailleurs tout au long du récit de l'Exode, et c'est l'idée suivante, Dieu est fortement attaché à son peuple. Dieu tient énormément à son peuple. Alors regardons le texte, lisons-le pour mieux comprendre. Et puis après l'avoir lu, on va prier et puis regarder tout ça en détail. Alors à partir du verset 18, jusqu'à la fin du chapitre. Moïse s'en alla, et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, « Je vais aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte et voir s'ils sont encore vivants. » Jéthro dit à Moïse, « Va en paix. » L'Éternel dit à Moïse, en Madian, « Va, retourne en Égypte, car ils sont morts tous ceux qui en voulaient à ta vie. » Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Moïse prit dans sa main le bâton de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « En partant pour retourner en Égypte, regarde tous les prodiges que j'ai mis à ta disposition. Tu les feras devant le Pharaon. Et moi j'endurcirai son cœur et il ne laissera point partir le peuple. Tu diras au Pharaon, « Ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, alors moi, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Pendant le voyage, dans un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel vint à sa rencontre et voulut le faire mourir. Séphora prit un silex, coupa le prépuce de son fils et en toucha les pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang !» Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit « Époux de sang !» à cause de la circoncision. L'Éternel dit à Aaron « Va dans le désert au devant de Moïse. » Il partit, rencontra Moïse à la montagne de Dieu et l'embrassa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qui l'avait envoyé et tous les signes qu'il lui avait ordonné d'opérer. Moïse et Aaron s'en allèrent et rassemblèrent tous les anciens des Israélites. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il opéra les signes aux yeux du peuple. Le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les Israélites, qu'il avait vu leur misère, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Voilà pour la lecture de la parole de Dieu, je vous invite à la prière. Seigneur, s'il te plaît, instruis-nous maintenant par le moyen de ta parole et avec l'aide de ton esprit. Aide-nous à bien comprendre ce que tu veux nous dire et s'il te plaît, applique-le. Applique-le puissamment à notre vie. Amen. Alors premièrement, versets 18 à 20, vous avez le plan peut-être dans le bulletin. Premièrement, le texte nous fait comprendre que Dieu est fortement attaché à son peuple car il veille sur son peuple conformément à son plan. Il veille sur son peuple conformément à son plan. Et pour nous faire comprendre cela, Moïse souligne de nouveau le contraste qu'il y a entre d'un côté sa propre faiblesse, la faiblesse de Moïse d'un côté, sa faiblesse et son incrédulité, et de l'autre côté, la force et la détermination de Dieu. Alors ça, c'est quelque chose qu'on avait vu la dernière fois déjà, ce contraste que Moïse est en train de souligner entre lui et sa personne, ses ressources, sa foi bien limitée, pour ne pas dire son incrédulité, sa faiblesse, et puis d'un autre côté, un Dieu qui est puissant et déterminé à accomplir ses projets. Vous voyez ce qui se passe dans le texte. Moïse se demande même, il n'est pas sûr que ses frères soient encore vivants. Et Dieu, au verset suivant, affirme, non pas que ses frères sont vivants, mais que ses ennemis sont morts. Moïse et sa famille, d'ailleurs, à la fin de ces trois versets, ne paient pas de mine sur leurs ânes. Et d'ailleurs, quand des gens montent sur des ânes dans la Bible, c'est souvent pour souligner l'humilité, la situation bien humble de ces gens. Moïse et sa famille sont sur des ânes pour retourner en Égypte. Mais le texte ajoute que Moïse tient dans sa main quoi ? Le bâton de l'Éternel. Et ce bâton de l'Éternel, c'est le signe, c'est l'emblème, si vous voulez, de toute la mission que Dieu a confiée à Moïse, de toutes les ressources même que Dieu a mises à la disposition de Moïse pour accomplir sa mission. Donc vous voyez le contraste qui est représenté ici dans cette situation, entre la faiblesse de Moïse, mais la puissance et la détermination de Dieu en faveur du peuple. Il est vrai que ces versets 18 à 20 servent un peu d'épilogue à toute la conversation qui a eu lieu et qu'on a vue notamment dans les deux derniers messages, la conversation entre Moïse et Dieu près du buisson ardent. Alors mettez-vous à la place de l'Israélite, d'accord, qui lit ces lignes. Qu'est-ce qu'il doit se dire à ce moment-là? Il doit se dire, heureusement que notre existence en tant que peuple ne dépend pas de la foi de Moïse, mais qu'elle dépend de la fidélité de Dieu. Heureusement, parce qu'on n'irait pas loin sur la base de la foi de Moïse. Heureusement que notre existence dépend de la fidélité de Dieu. Imaginez, par exemple, que vous traversiez une période difficile dans votre vie et que, de temps à autre, pendant cette période difficile, alors que tous vos autres amis se sont éloignés de vous et vous ignorent un peu, en tout cas ne sont pas là pour vous aider, et bien que de temps à autre, vous receviez, et bien par exemple, un bouquet de fleurs, tiens, ou une carte avec un mot d'encouragement, ou encore peut-être une enveloppe avec un peu d'argent pour vous aider avec vos soucis financiers. Imaginez cette situation. Et toutes ces marques de soutien sont signées « Un ami qui vous veut du bien ». Vous ne savez pas qui est cette personne de votre entourage qui vous manifeste ainsi son amitié et sa sollicitude. Mais ce que vous savez, c'est que sans cette sollicitude, vous ne vous en sortiriez pas en réalité. Et dans le texte, Dieu se présente un peu comme cet ami qui veut du bien à son peuple, alors même que le peuple, à ce moment de l'histoire, ne lui prête même pas beaucoup d'attention. Même Moïse, celui qui a été choisi par Dieu pour libérer le peuple, même Moïse est un peu incrédule. Même au moment de partir, il ne sait même pas s'il va retrouver ses frères vivants. Mais Dieu surpasse cette incrédulité de Moïse. Dieu continue d'accomplir son plan en faveur de son peuple. On découvre que Dieu a préservé son peuple pendant ses 400 ans de servitude. Dieu l'a préservé. Et maintenant, Dieu lui envoie Moïse. Certes, c'est un pauvre berger de 80 ans assis sur un âne. Enfin, peut-être qu'il marche à côté des ânes. C'est sa femme, sa famille qui sont assis sur des ânes. Mais qu'est-ce qu'il tient dans sa main droite? Le bâton de Dieu comme un sceptre, hein? Le bâton qui représente la puissance de Dieu déployée en faveur du peuple. Vous voyez donc que Dieu est fortement attaché à son peuple car il veille sur son peuple conformément à son plan. Ici, dans ce très court épisode de l'Exode, on a une illustration dans l'histoire du peuple d'Israël de cette affirmation que l'on trouve dans le Nouveau Testament et qui est bien connue. Toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. D'accord. Mais est-ce que Dieu se contente d'orchestrer les circonstances pour qu'elles soient favorables à l'accomplissement de son plan? Eh bien non. Il fait bien plus que cela encore. Regardons la suite. Je vais boire un petit peu. Et deuxièmement, dans les versets 21 à 23 maintenant, le texte nous fait comprendre que Dieu est fortement attaché à son peuple car il intervient pour son peuple à un prix considérable. Il intervient pour son peuple à un prix considérable. Encore une fois, Dieu annonce la couleur, il annonce d'avance ce qui va se passer. Malgré les prodiges opérés par Moïse, le Pharaon aura le cœur endurci, il ne va pas laisser partir le peuple. Alors quoi? Dieu va faire une terrible menace. Encore une fois, Dieu annonce tout cela à l'avance. On voit qu'il est omniscient, omnipotent, souverain. Il annonce tout cela à l'avance. Quelle est cette terrible menace? Si le Pharaon ne laisse pas partir le peuple d'Israël, qui est appelé dans ce passage le fils de Dieu, le premier-né de Dieu, alors que fera Dieu? Il fera mourir le premier-né du Pharaon. Si le Pharaon ne laisse pas partir le premier-né de Dieu, Dieu fera mourir le premier-né du Pharaon. C'est aussi simple que cela. Et ces deux versets quand même sont très très forts. C'est la première fois que le peuple d'Israël, dans le récit de l'Exode, est appelé le fils de Dieu. Ce qui suggère une très très grande affection de Dieu pour son peuple. Et c'est la première fois aussi, dans le récit de l'Exode, qu'il est question d'un jugement aussi sévère contre le Pharaon, en tout cas de façon aussi explicite. Mais est-ce que vous voyez dans ces versets 21 à 23, est-ce que vous voyez l'affection que Dieu porte pour son peuple. Est-ce que vous voyez à quel point il tient à son peuple, au point d'intervenir pour le libérer, mais à un prix aussi considérable? Je ne sais pas si vous avez vu le film intitulé Taken avec Liam Neeson, qui est sorti en 2008. C'est un film français, mais avec des acteurs anglophones et quelques acteurs francophones. Mais dans ce film, la fille d'un ancien agent secret américain est enlevée pendant qu'elle est en voyage à Paris. D'accord ? Elle est enlevée par un gang de proxénètes albanais qui compte faire d'elle une marchandise. Et il se trouve qu'au moment de l'enlèvement, la fille réussit à téléphoner un peu d'urgence, dans la panique, à son père qui est aux États-Unis en utilisant son téléphone portable. Mais le chef des kidnappeurs est là et il saisit le téléphone. Et avant de raccrocher, le chef des kidnappeurs met le téléphone à son oreille. Et le père qui est à l'autre bout du fil, il comprend à ce moment-là que la personne avec qui il est en communication, qui est en train d'écouter à l'autre bout du fil, c'est le kidnappeur de sa fille. Et voici ce que le père lui dit. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas ce que vous voulez. Si c'est une rançon que vous espérez, dites-vous bien que je n'ai pas d'argent. Par contre, ce que j'ai, c'est des compétences particulières que j'ai acquises au cours d'une longue carrière. Rappelez-vous, il était agent secret, cet homme. Des compétences qui font de moi un véritable cauchemar pour vous. Si vous relâchez ma fille maintenant, ça s'arrêtera là. Si vous ne la relâchez pas, je vous chercherai, je vous trouverai et je vous tuerai. Alors ensuite, il y a un long silence. Et puis le kidnappeur répond « Bonne chance » et raccroche. Et le reste du film raconte la façon dont le père va rechercher sa fille avec une incroyable détermination et la façon dont il va détruire tout ce qui se trouve sur son passage jusqu'à ce qu'il retrouve et libère sa fille. Alors c'est un film dur, je vous le dis. Je vous préviens qu'il est destiné à un public averti, mais ce que je veux que vous voyez cette histoire, c'est la façon dont l'affection que porte ce père pour sa fille se traduit au niveau de ses actes et au niveau du prix que va coûter son intervention en faveur de sa fille. Vous voyez ? Ce n'est pas que ce père est un homme violent ou qu'il aime tuer des gens. Bien au contraire d'ailleurs, c'est un bon père, on le voit dans le film. Mais il est prêt à tout pour retrouver sa fille et la délivrer. Pourquoi ? Parce qu'il tient à elle, à ce point. Et de la même façon dans le texte, Dieu tient un discours un peu similaire. Dieu tient à son peuple comme à son propre fils, à son premier-né. Et s'il doit faire périr le premier-né du Pharaon, comme prix de la délivrance d'Israël, il le fera. Et il le dit d'avance. Vous voyez donc que Dieu est fortement attaché à son peuple parce qu'il intervient pour son peuple à un prix considérable. Alors à ce stade du récit, l'Israélite qui lit ce texte, y compris peut-être les croyants aujourd'hui qui lisent ce texte, se disent peut-être « Waouh ! Vu ce que Dieu est prêt à faire pour son peuple, nous en tant que peuple de Dieu, on doit vraiment être des gens supérieurs aux autres. On doit vraiment avoir une valeur supérieure aux autres gens. » Vous voyez ? Ah oui ? Pas vraiment. Regardons la suite du récit, et notamment ces fameux versets 24 à 26 qui sont au cœur de ce passage. Et dans ces versets 24 à 26, le texte nous fait comprendre que Dieu est fortement attaché à son peuple. Troisièmement, parce qu'il a marqué son peuple d'un signe distinctif. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce verset ? C'est très bizarre, dans ces trois versets. C'est très bizarre, très étonnant et un peu choquant. Dieu vient d'annoncer qu'il va faire périr le fils du Pharaon, le fils premier-né du Pharaon. Et au verset suivant, c'est Moïse que Dieu cherche à faire périr. C'est bizarre, non ? Est-ce qu'il est incohérent, ce Dieu ? Alors, vu ce qui se passe dans ce qui suit, dans les versets suivants, on comprend que la raison de cette situation où Dieu cherche à faire périr Moïse. La raison de cette situation, c'est que le fils de Moïse n'est pas circoncis. La femme de Moïse prend conscience de cette situation, la femme de Moïse qui s'appelle Séphora, elle prend conscience de cette situation et elle corrige cette anomalie d'un fils incirconcis, elle corrige cette anomalie en guise de propitiation. c'est-à-dire pour rendre Dieu propice. Et effectivement, le texte dit alors, l'Éternel le laissa une fois que son fils est bel et bien circoncis. Par cet épisode, Dieu est en train de souligner quelque chose de très très important. C'est l'extrême importance du rite de la circoncision dans l'Ancien Testament qui a été institué comme signe de la relation particulière entre Dieu et son peuple. On fait un rapide retour en arrière dans l'histoire pour se souvenir de ce qui s'est passé avec Abraham. Quand Dieu a appelé Abraham, le père des croyants, le grand patriarche, le premier, si j'ose dire, de la lignée du peuple d'Israël, eh bien Dieu lui a dit à Abraham, « J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance avec toi dans toutes leurs générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. » Voici, et un peu plus loin, « Voici comment vous garderez l'alliance que je traite avec vous et avec ta descendance après toi. Tout mâle, c'est-à-dire tout homme parmi vous, sera circoncis. Vous vous circoncirez comme signe d'alliance entre vous et moi. » Ce n'était pas une option. C'était le signe de l'alliance. Le signe qu'il y avait une relation particulière, privilégiée, entre ces gens-là et Dieu. Cette famille, ce peuple et Dieu. Dieu voulait donc que son peuple porte le signe de son appartenance à Dieu, le signe de son statut particulier par rapport aux autres peuples. Vous voyez ? C'est un peu comme les poinçons qu'on met sur les bijoux. Vous savez ce que c'est qu'un poinçon ? Une bague en or, par exemple, comme la mienne ici, mon alliance, eh bien, normalement, pour montrer que c'est bel et bien une bague en or, eh bien, il y a un poinçon qui représente une tête d'aigle. Pour les bagues en platine, les bijoux en platine, ce serait une tête de chien, le poinçon, voilà, pour dire c'est bel et bien du platine. Alors imaginez que vous vous promeniez dans la rue et que votre enfant ramasse un bout de métal dans le caniveau. Regarde papa, on dirait une bague. Remets ça par terre, c'est dégoûtant. Mais regarde, on dirait une tête de chien gravée dessus. Attends, fais voir, montre-moi. Ça change le point de vue, la perspective, n'est-ce pas ? Le poinçon témoigne du statut d'un objet. De manière similaire, la circoncision devait témoigner du statut d'une famille dans l'Ancien Testament. En omettant de circoncire son fils, Moïse s'était rangé avec les peuples païens, les peuples qui ne connaissaient pas Dieu, qui n'avaient pas cette relation particulière. La famille de Moïse, par conséquent, ne portait pas le signe de sa relation particulière avec Dieu. Et sans ce signe, la famille de Moïse ne valait pas mieux que les familles égyptiennes. Il n'y avait pas de raison que Dieu fasse périr le premier-né du Pharaon et pas Moïse lui-même, s'il s'était rangé avec les peuples païens. Est-ce qu'il y avait une différence de valeur intrinsèque entre Israël et les autres nations ? Une différence de valeur intrinsèque ? Pas du tout. Pas du tout. Mais le peuple d'Israël avait été mis à part en vertu des promesses que Dieu lui avait faites. Non pas qu'il ait une valeur en lui-même supérieure aux autres peuples, mais parce que ce peuple en particulier avait reçu les promesses de Dieu. Et ces promesses étaient signifiées par la circoncision. C'est des promesses que Dieu a faites par pure grâce, comme je l'ai dit, non pas parce que le peuple valait mieux que les autres. Par pure grâce, Dieu a choisi, a élu le peuple d'Israël. Il leur a fait ses promesses et il a scellé ses promesses avec le sang de la circoncision. Ce que le peuple d'Israël est en train d'apprendre ici, en lisant cet épisode, encore une fois choquant, étonnant, où Dieu veut tuer Moïse parce que le fils de Moïse n'est pas circoncis, ce que le peuple d'Israël est en train d'apprendre ici, c'est que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Pour citer un auteur du Nouveau Testament. Autrement dit, pour que Dieu soit propice à Moïse comme à tout le peuple d'Israël, par conséquent, il faut que le sang coule. Pour que Dieu soit propice à Moïse comme à tout le peuple d'Israël, il faut que le sang coule. Et c'est parce que Séphora comprend à ce moment-là que le statut de sa famille devant Dieu dépend du sang qui doit couler. C'est à cause de cela que Séphora, après avoir corriger l'anomalie, et bien elle s'exclame vis-à-vis de Moïse, « Tu es pour moi un époux de sang. » parce que le statut de notre famille devant Dieu dépend du sang qui doit couler. Tu es pour moi un époux de sang. Dieu a peut-être utilisé cette histoire pour montrer au peuple d'Israël l'importance d'être circoncis, notamment lorsque le peuple, à la fin de son séjour au désert, a traversé le Jourdain pour pénétrer en terre promise. Et au moment où le peuple s'apprêtait à entrer finalement en combat, hein, en guerre avec les peuples qui occupaient la terre promise à ce moment-là, on apprend, quand on lit le reste du récit, notamment dans le livre de Josué, que dès qu'il traverse le Jourdain, au lieu de partir en guerre, Dieu donne des ordres à Josué pour que tous les hommes se fassent circoncire, parce que la génération qui était née dans le désert n'avait pas été circoncise. Et donc c'est peut-être, avec cette histoire, peut-être que Dieu a utilisé cette histoire pour montrer au peuple d'Israël l'importance d'être circoncis à ce moment, notamment, de leur histoire. Vous voyez en tout cas que Dieu est fortement attaché à son peuple parce qu'il a marqué son peuple d'un signe distinctif. C'est un signe qui met le peuple à part et qui parle de la grâce de Dieu et de son pardon qui sont nécessaires et qui sont possibles par l'effusion du sang. Et j'espère ne rien vous apprendre si je vous dis que le sang a coulé une fois pour toutes sur la croix, où Jésus, le Messie qui a été annoncé d'avance, est mort. Et en mourant, il a tout accompli, y compris ce que le sang de la circoncision annonçait d'avance, c'est-à-dire le pardon des péchés. Le sang, aujourd'hui, mes amis, et depuis qu'il a coulé sur la croix, le sang n'a plus besoin de couler pour le pardon des péchés. Il a coulé une fois pour toutes, mais Dieu marque quand même son peuple d'un signe distinctif encore aujourd'hui. Et depuis Jésus, c'est le signe du baptême. Votre baptême, mes amis, c'est le signe que Dieu tient à vous. Mais il y a encore une chose que je voudrais mentionner dans la fin de ce passage, versets 27 à 31. Quatrièmement et dernièrement, eh bien le texte nous fait comprendre que Dieu est fortement attaché à son peuple, car il se fait connaître à son peuple, et il le fait de façon efficace. Il se fait connaître à son peuple, et de façon efficace. Alors, vous voyez, ces versets 27 à 31 rapportent, si vous voulez, le dénouement heureux de toute cette première partie, hein, les chapitres 1 à 4. Qu'est-ce qui se passe? Ça nous est résumé en quelque sorte dans ces versets. Aaron se joint à Moïse, effectivement, comme Dieu l'avait annoncé d'avance. Ensemble, ils vont parler aux anciens, comme Dieu l'avait annoncé d'avance. Ils vont opérer les prodiges aux yeux du peuple, comme Dieu l'avait annoncé d'avance. Et le peuple comprend et croit. Qu'est-ce qu'il est beau ce verset 31. Le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les Israélites, qu'il avait vu leur misère, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Bref, tout se passe exactement comme Dieu l'avait prévu. Le plan est en train de fonctionner. Et le résultat, c'est la foi et l'adoration des Israélites. Dieu, voyez-vous, s'est efficacement révélé à son peuple. Imaginez que c'est la Saint-Valentin et que vous receviez une lettre d'amour. Saint-Valentin, hein ? On reçoit des lettres d'amour à la Saint-Valentin. Quelqu'un a pris son courage à deux mains pour vous déclarer sa flamme. Et voici ce que vous lisez dans cette lettre. « Bonjour, je n'ose pas te donner mon nom car je suis trop timide. » Et puis, ce n'est pas important. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Je te connais un peu, mais pas trop. Je t'aime bien. Enfin, je pense. Personnellement, je suis pas mal, mais je pense que tu m'aimerais bien toi aussi, mais bon, j'en suis pas sûr. J'imagine qu'on a des intérêts en commun, mais en fait, je n'y ai pas trop réfléchi. Enfin, bref, je voulais juste me présenter. Maintenant qu'on se connaît, est-ce que tu veux bien m'épouser? Alors, pas sûr que ce soit la plus efficace des lettres d'amour, hein. On est d'accord? Mais vous voyez, quand Dieu se fait connaître à son peuple, c'est exactement le contraire, hein. C'est exactement le contraire. Dieu tient à son peuple et c'est pourquoi il met tout en œuvre pour se faire connaître de façon efficace. Et on a vu dans les chapitres précédents tous les moyens que Dieu a mobilisés pour venir au secours de son peuple et se faire connaître à lui. Et la fin de ce chapitre, donc verset 31 notamment, souligne clairement l'efficacité de tout ce que Dieu a fait. Le verset 31, si vous voulez, c'est une célébration de la révélation efficace de Dieu. Alors, pour récapituler, pardon, qu'est-ce qu'on a vu dans ce texte? C'est que Dieu était fortement attaché à son peuple. Hein? Dieu tient énormément à son peuple. Dieu nous a fait comprendre cela en nous montrant tout d'abord qu'il veillait sur son peuple conformément à son plan. Hein? Sachez donc, mes amis, que Dieu a un plan bienveillant pour son peuple et que rien ni personne ne peut le faire plier. Dieu poursuivra fidèlement la réalisation de toutes ses promesses jusqu'à leur plein accomplissement. Ensuite, Dieu nous a fait comprendre qu'il tenait à son peuple en nous montrant qu'il intervenait pour son peuple, et cela à un prix considérable. Regardez donc, mes amis, l'histoire et voyez tout ce que Dieu a fait en faveur de son peuple dans l'histoire. Tout ce qu'il a fait pour le pardon et la délivrance de son peuple dans l'histoire. Non seulement a-t-il étendu son bras puissant dans l'histoire de son peuple, mais il est venu en personne, en Jésus, visiter les hommes. Troisièmement, pour nous faire comprendre combien il tenait à son peuple, Dieu nous a montré dans ce texte qu'il marquait son peuple avec un signe distinctif, le signe de la circoncision dans l'Ancien Testament et le signe du baptême dans le Nouveau Testament. Ce signe, c'est le signe de la promesse de Dieu adressée à son peuple, en vertu de laquelle le pardon des péchés est rendu possible par l'effusion du sang de Jésus-Christ, une fois pour toutes à la croix. Si vous placez votre entière confiance en lui qui est ressuscité, en Jésus qui est aujourd'hui assis à la droite de Dieu le Père, en Jésus qui aujourd'hui intercède pour son peuple, si vous placez votre confiance en lui, alors Jésus deviendra pour vous à son tour un genre d'époux de sang. Un genre d'époux de sang parce que vous serez unis à lui par un lien indéfectible et tous les bienfaits qu'il a promis à son peuple seront vôtres par le moyen de votre foi en lui. Et enfin, quatrièmement, pour couronner le tout, Dieu nous a fait comprendre combien il tenait à son peuple en nous montrant qu'il se faisait connaître à son peuple de façon efficace. Il a mobilisé tous les moyens nécessaires pour que nous puissions le connaître, pour que nous croyions, pour que nous apprenions qu'il nous a vraiment visités, qu'il a vu notre misère, qu'il est venu à notre secours, qu'il nous a délivrés par Jésus, et pour qu'à notre tour nous nous inclinions et nous prosternions pour l'adorer, comme l'a fait le peuple d'Israël. Ainsi, nous pouvons prier avec le psalmiste. Je t'invoque, car tu me réponds, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, montre les merveilles de tes bienfaits par ta droite contre les assaillants. Et écoutez bien le verset 8. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Cache-moi à l'ombre de tes ailes. Amen.